VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Biot à ce micro, sommaire de cette édition du mercredi 11 janvier 2023. Au Bénin, l'opposition remporte 28 sièges lors des législatives, selon les résultats provisoires proclamés par la commission électorale. Au Mali, au moins 12 soldats ont été tués lors de combats avec les djihadistes. Au Tchad, une faction rebelle dénonce l'accord entre le gouvernement et le comité d'autodéfense de Miski.
Que la junte a fait une déclaration et communiqué en disant qu'ils ont signé un accord, alors que ces accords étaient signés par 9 personnes.
Nous retrouverons dans la partie magazine Mahamat Ali Youssouf, président de l'Union des mouvements pour la démocratie et le développement du Tchad. Le nouveau chef de la diplomatie chinoise effectue une tournée africaine jusqu'au 16 janvier. King Gang va visiter 5 pays sur le continent. Ici aux États-Unis, la Californie est menacée par un cyclone après des tempêtes et inondations historiques. À suivre également dans cette session d'information, la Minute Éco, le Ghana négocie la restructuration de sa dette avec ses créanciers. Le sport, dernière ligne droite vers le coup d'envoi du Chan Algérie 2022 qui débute vendredi à Alger. Bonsoir, bienvenue, on commence par le journal. Au Bénin, l'opposition fait son retour au Parlement en remportant 28 sièges sur 109 aux législatives. Une première après 4 ans d'absence, selon les résultats provisoires donnés mercredi par la Commission électorale nationale autonome. Le point avec Rosine Mounezero.
D'après la Sénat, le principal parti d'opposition, les démocrates ont remporté 28 sièges, tandis que l'Union progressiste pour le renouveau et le Bloc républicain, parti de la mouvance présidentielle, ont respectivement obtenu 53 et 28 sièges. Les résultats définitifs des législatives tenues dimanche sont attendus vendredi. Ces élections faisaient office de test important pour le Bénin, jadis perçu comme un modèle de démocratie, où le président Talon a favorisé le développement économique selon ses partisans, mais au prix d'un recul démocratique selon l'opposition. Les principales figures de l'opposition sont derrière les barreaux ou en exil. Les dernières législatives organisées en 2019 ont été marquées par des violences meurtrières, une abstention record et une coupure totale de l'Internet. L'opposition n'avait pas pu participer au scrutin en raison d'un durcissement des règles.
Dans le centre du Mali, au moins 12 soldats maliens ont été tués mardi au cours d'affrontements avec des djihadistes, ont indiqué aujourd'hui des officiers de l'armée et de la gendarmerie sous couvert de l'anonymat. Le point avec Bagasikoura.
Le bilan de l'embuscade hier est de 13 morts. Ce matin, un blessé grave a succombé à ses blessures, ce qui fait 14 morts, dont un capitaine qui était chef de la mission d'escorte, a dit à l'AFP un responsable de l'armée à Ségou, où les dépouilles ont été acheminées. Le chef du détachement et tout son équipage sont morts dans l'embuscade. On déplore plus de 12 morts, a dit un officier de gendarmerie à l'AFP, qui s'exprimait lui aussi sous couvert de l'anonymat. Il a par ailleurs fait état de 30 soldats blessés et d'un certain nombre de disparus et de plus de 30 djihadistes tués. Un précédent bilan officiel faisait état de 3 soldats tués et 5 blessés, ainsi que 7 djihadistes neutralisés dans ces combats qui ont eu lieu entre Mopti et Ségou après plusieurs attaques contre l'armée menée à l'aide de bombes artisanales. Par ailleurs, un véhicule de transport en commun qui a quitté Bankass ce matin pour la ville de Mopti a été enlevé avec tous ses passagers. C'est aussi l'anniversaire de l'entrée en action le 11 janvier 2013 de l'opération Serval par laquelle des soldats français ont arrêté à Kona, non loin de Sévaré, l'offensive des djihadistes qui depuis se sont éparpillés dans la sous-région. Le Mali est en proie depuis 2012 à la propagation djihadiste.
Les rebelles tigréens ont commencé à rendre leurs armes lourdes, point clé de l'accord signé il y a plus de 2 mois pour mettre un terme à un conflit meurtrier dans le nord de l'Éthiopie. Le Tigré a remis ses armes lourdes dans le cadre de son engagement à mettre en œuvre l'accord de Pretoria signé le 2 novembre entre le gouvernement éthiopien et les rebelles tigréens, a affirmé dans un tweet Getachew Reda, porte-parole des autorités rebelles. L'accord de paix du 2 novembre prévoit notamment un désarmement des forces rebelles, le rétablissement de l'autorité fédérale au Tigré et la réouverture des accès et communications vers cette région coupée du monde depuis la mi-2021. L'Afrique ne devrait pas être une arène de compétition entre les puissances mondiales, a déclaré aujourd'hui le ministre chinois des Affaires étrangères, King Gang, qui a entamé une tournée dans 5 pays africains. Abdourahmane Dia.
L'Afrique devrait être un haut lieu de la coopération internationale et non une arène pour la concurrence des grands pays, a déclaré le chef de la diplomatie chinoise lors d'une conférence de presse avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, à Addis Abeba. Il a procédé à l'inauguration d'un nouveau siège pour un organisme de santé panafricain dont la Chine a assuré le financement. Gang King a aussi visité le siège de l'Union africaine à Addis Abeba, également financé par Pékin. King a rencontré hier mardi le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et d'autres responsables gouvernementaux et a annoncé une annulation partielle de la dette de l'Éthiopie envers la Chine lors de la visite. La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Afrique depuis plus d'une décennie. Elle rivalise d'influence avec les États-Unis qui ont accueilli en décembre dernier des dirigeants de 49 pays africains. Homme de confiance du président Xi Jinping et ancien ambassadeur aux États-Unis, Qin a été nommé ministre des Affaires étrangères le mois dernier. Sa visite marque la 33e année consécutive que l'Afrique est la destination de la première tournée à l'étranger du ministre chinois des Affaires étrangères. Il se rendra également en Égypte, en Angola, au Bénin et au Gabon au cours de la semaine prochaine.
L'épidémie d'Ebola en Ouganda est terminée, ont annoncé aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé et la ministre ougandaise de la santé, moins de 4 mois après l'annonce du début de l'épidémie qui a coûté la vie à 55 personnes. Selon l'OMS, une épidémie est dite enrayée lorsqu'il n'y a pas de nouveaux cas pendant 42 jours consécutifs, soit 2 fois la période d'incubation d'Ebola. Le dernier patient confirmé porteur du virus en Ouganda est sorti de l'hôpital le 30 novembre, ont annoncé les autorités sanitaires.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plus de 33 millions de Californiens sont menacés par les pluies diluviennes qui s'abattent sur leur État depuis plus de 2 semaines. Le bilan provisoire est lourd, au moins 17 morts. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Pas de répit pour l'État le plus peuplé des États-Unis, où la météo prédit un cyclone majeur ce mercredi, avec à la clé de fortes chutes de neige dans les montagnes de la Sierra Nevada et jusqu'à 18 cm de pluie dans d'autres zones. La Californie a enregistré au total 6 rivières atmosphériques, des rivières du ciel qui se forment grâce à la vapeur d'eau des tropiques. Celles-ci ont déversé jusqu'à 76 cm de pluie dans certains endroits en 17 jours, saturant les sols d'eau. Conséquence, plusieurs communautés ont enregistré des inondations et des coulées de boue. Pour compliquer les choses, des vents violents ont fait tomber des poteaux et des câbles électriques, privant d'électricité quelques 180 000 ménages et entreprises. Au moins 34 000 Californiens ont reçu un ordre d'évacuation. Selon la météo, le centre et le sud des États-Unis doivent eux aussi s'attendre à des orages dans les jours à venir.
La première dame américaine Jill Biden a été admise ce mercredi à l'hôpital pour que lui soit retirée une petite lésion cutanée découverte au visage à l'occasion d'un examen de routine. Jill Biden, 71 ans, est la première dame la plus âgée de l'histoire des États-Unis, tandis que son époux, âgé de 80 ans, est également le plus vieux locataire de l'histoire de la Maison-Blanche. Le régulateur de l'aviation civile aux États-Unis a indiqué aujourd'hui avoir levé la suspension de tous les vols intérieurs aux États-Unis, rendu nécessaire plus tôt dans la journée par une panne informatique dont l'origine n'a toujours pas été déterminée. Les opérations normales de trafic aérien reprennent progressivement après une panne donc du système fournissant des informations de sécurité aux équipages de vol. Les nouvelles mesures américaines de contrôle des frontières risquent de porter atteinte aux droits humains fondamentaux, a mis en garde aujourd'hui le commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk. La Maison-Blanche a annoncé jeudi dernier de nouvelles conséquences pour les migrants qui franchiront illégalement la frontière. Les États-Unis auront plus souvent recours à des expulsions immédiates assorties d'une interdiction de nouvelle entrée sur le territoire pendant 5 ans. Le premier ministre britannique Rishi Sunak effectuera sa première visite en France le 10 mars, et cela à l'occasion d'un sommet franco-britannique qui portera notamment sur la sécurité, l'énergie et la lutte contre l'immigration clandestine, a annoncé l'Élysée. Il s'agira de la première rencontre de ce type depuis 2018, ont précisé la présidence française et Downing Street. En France, toujours en France, un homme a blessé 6 personnes à l'arme blanche ce mercredi matin à la gare du Nord à Paris, avant d'être rapidement neutralisé par des tirs de policiers, a déclaré à la presse le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est rendu donc sur place. L'assaillant grièvement touché a été interpellé et conduit à l'hôpital. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Abdourahmane Dia.
Le Ghana demande à ses créanciers bilatéraux officiels une restructuration de sa dette au titre du cadre commun du G20, a rapporté Reuters, citant des sources proches du dossier. Ce pays est le 4e à postuler à l'initiative du G20 lancée en 2020 et conçue pour rationaliser les efforts de restructuration de la dette visant à aider les pays pauvres à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19. La Chine est le plus grand créancier bilatéral du Ghana avec 1,7 milliard de dollars de dette. Chute drastique de la livre égyptienne qui s'est changée ce mercredi à près de la moitié de sa valeur en mars, après la troisième dévaluation dictée notamment par un nouveau prêt du Fonds monétaire international. Le dollar valait 29,7 livres à la fermeture des banques égyptiennes, selon la Banque centrale. Cette chute affecte encore un peu plus les 104 millions d'Égyptiens dans un pays où la majorité des biens sont importés. Enfin, la crise du coût de la vie, conséquence de l'inflation exacerbée par la guerre en Ukraine et de la réouverture post-Covid de l'économie, est le risque planétaire numéro un pour les 2 ans à venir, d'après une enquête du Forum économique mondial. Selon cette étude, ce risque crée de fortes tensions dans de nombreuses régions du monde en faisant basculer des millions de personnes dans la grande pauvreté et en attisant les tensions sociétales.
Place maintenant au sport avec Timothée Donagmaï. Bonsoir Tim.
Bonsoir Jean-Roger.
Sprint final vers le coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations Total Énergie Algérie 2022 qui débute vendredi à Alger.
La CAF et son partenaire technique Umbro ont dévoilé ce mercredi le ballon officiel de la compétition. Baptisé Marhaba, mot arabe signifiant bienvenue, et inspiré des couleurs du Chan et de l'Algérie, ce ballon sera notamment utilisé lors du match d'ouverture de la compétition entre le pays hôte, l'Algérie, et la Libye, au stade Nelson Mandela d'Alger.
Toujours dans le cadre des préparatifs du CHAN, les hauts dirigeants de la CAF se réunissent demain, jeudi, à Alger.
Le président de la CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe, présidera une première réunion dans la matinée, celle du comité exécutif de la CAF. Elle sera suivie par une réunion des présidents des fédérations membres de la CAF. Le président de la CAF échangera ensuite avec la presse dans l'après-midi au stade Nelson Mandela d'Alger. Il sera question durant toutes ces rencontres de sujets comme le redressement stratégique visant à rendre la CAF autonome et compétitive au niveau mondial.
Le club anglais de Chelsea a annoncé aujourd'hui l'arrivée de l'attaquant portugais João Félix en prêt jusqu'à la fin de la saison.
Chelsea, qui était en concurrence avec Manchester United et Arsenal, a mis le paquet pour s'attacher temporairement les services du joueur de 23 ans en provenance de l'Atlético Madrid, où il a prolongé son contrat jusqu'en 2027. Les Blues paieront 12 millions d'euros pour le prêt de 6 mois et prendront en charge la totalité du salaire du joueur, selon la presse anglaise.
En France, Noël Legret, mis sur la touche par le comité exécutif extraordinaire de la Fédération française de football ce mercredi.
L'accumulation de scandales a fini par avoir raison de Legret, qui a passé plus de 11 ans au sommet du football tricolore. Ses propos à l'emporte-pièce sur Zinedine Zidane et la diffusion d'un témoignage sur ses comportements sexistes ont précipité sa chute. C'est Philippe Diallo, jusque-là vice-président de la Fédération française de football, qui assurera l'intérim.
La Basketball Africa League a annoncé la tenue d'une session de scouting à Paris pour les jeunes joueurs désireux de participer à la saison 2023 de la balle, dont le coup d'envoi est prévu le samedi 11 mars à Dakar, au Sénégal.
L'événement de 2 jours, auquel participeront 30 joueurs venus d'Afrique, d'Europe, des États-Unis et du reste du monde, se déroulera les 15 et 16 janvier au centre d'entraînement The One Ball à Paris. Les joueurs participeront à des tests anthropométriques et athlétiques, à des activités de perfectionnement technique par poste et à des matchs à 5 contre 5 devant des spectateurs avertis, à savoir les émissaires, les entraîneurs et dirigeants des 12 clubs qualifiés pour la saison 2023 de la balle.
Page de sport VOA Afrique, signé Timothée Donangmaï. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Tchad, le porte-parole de la présidence, Brahma Amat, a annoncé un accord de paix avec le groupe d'autodéfense de Miski dans l'extrême nord du pays, qui a souvent été le théâtre de combats meurtriers pour le partage des ressources. Idriss Fall a recueilli la réaction de Mahamat Ali Youssouf, président de la coalition Union des mouvements pour la démocratie et le développement du Tchad, qui avait refusé de signer les accords de Doha et rejeté le dialogue dit national.
Bon, ce groupe a été créé depuis plusieurs années, ils ont tenté de, le défunt Marshall en 2018, je pense qu'il a tenté de, ceux qui ont tenté de réconcilier avec ce groupe de Miski, comme son nom l'indique, qui défend seulement la ville, le département de la zone de Miski. C'est-à-dire, ils approchent le gouvernement que le gouvernement de Déby perd. Il a confisqué le pouvoir, il a pillé les ressources du pétrole, il ne laisse pas les ressources pour qu'il exploite pour la famille Hutino. Pour cela, ils ont créé le comité de défense pour défendre la ville et le département.
Et l'accord leur permet quoi alors?
Donc cet accord de quoi est signé et cet accord de paix de Miski, que la junte a fait une déclaration et communiqué en disant qu'ils ont signé un accord, alors que ces accords étaient signés par 9 personnes. Les autres membres du comité, ils ont créé un mouvement qui s'appelle MAC. C'est un mouvement qui contrôle tous les accès entre les Miski. Miski, c'est une zone montagneuse. Donc, il y a seulement 3 accès. Donc, ils contrôlent déjà toutes les rébellions qui sont succédées, qui sont passées par cette zone. C'est une zone stratégique. Donc, le gouvernement a été à plusieurs fois en 2018, 2019. Et 2020 aussi, bon, même le Qatar, le président de CNC a tenté de rentrer par la France, il n'a pas pu. Donc, c'est le mouvement rebelle qui contrôle toutes les accès. Donc, ils ont débloqué, ils ont corrompu une partie de la population en amenant 2,7 milliards. Ils ont proposé aussi 250 dans la police. Des généraux, l'intégration au niveau de la fonction publique qu'ils ont tenu de promettre. Donc, tout ça, ils ont obtenu juste 9 membres de la communauté autodéfense. Et les autres membres, ils ont créé leur mouvement, donc eux, ils contrôlent l'accès à cette zone stratégique du Kibisti.
Maintenant, vous, votre mouvement a refusé de signer les accords à Doha, a refusé de participer au dialogue national dit inclusif. Mais qu'est-ce que vous voulez en fait pour le Tchad?
Nous voulons un Tchad prospère, un Tchad qui respecte les droits, c'est un Tchad de paix qui respecte ses textes, ses constitutions. Donc vous voyez que Kaka et le CNT ont tué la liberté sociale, ils ont tué la justice, ils ont tué le bien vivre ensemble.
C'était Mahamat Ali Youssouf, président de la coalition Union des mouvements pour la démocratie et le développement du Tchad.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Les analystes qui étudient les régimes démocratiques et autoritaires prennent particulièrement note des récents mouvements de protestation en Iran, en Chine et en Russie. Ils préviennent que les régimes autoritaires de ces trois pays sont forts et qu'un certain nombre de circonstances doivent être réunies pour que les dictateurs tombent. C'est un reportage de Laurel Baumann, le récit est de Rosine Mounezero.
En Iran, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue après avoir été détenue pour un problème avec son foulard. Natasha Hall est chargée de mission au programme Moyen-Orient du Centre d'études stratégiques et internationales.
L'événement a vraiment touché une corde sensible dans tout l'Iran parce que je pense que tout le monde en Iran pourrait y voir sa fille, sa femme, sa sœur dans les mêmes circonstances.
En Chine, des manifestations massives ont également éclaté, ainsi que des appels à la démission du dirigeant Xi Jinping. Larry Diamond, donne des cours sur la démocratie à l'université de Stanford.
Elles ont commencé, bien sûr, en réaction furieuse aux restrictions liées à la politique zéro Covid avec l'emprisonnement de dizaines de millions, parfois des centaines de millions de Chinois dans leurs appartements.
Le mouvement de protestation de Russie a été plus discret, selon les experts, bien que plusieurs milliers de personnes soient sorties en 2021 après l'emprisonnement d'Alexei Navalny, un opposant au président russe Vladimir Poutine. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février a également fait sortir les manifestants. Graeme Robertson, de l'Université de Californie du Nord, est un expert des manifestations politiques, de la démocratisation et des régimes autoritaires, avec un accent particulier sur la Russie et l'Ukraine.
Il y a eu d'importantes protestations qui ont émergé brièvement après l'invasion de l'Ukraine et à nouveau vers la fin de l'été, lorsque la Russie a annoncé qu'elle allait mobiliser un plus grand nombre de personnes pour aller combattre en Ukraine.
Les experts affirment que les manifestants en Iran, en Chine et en Russie ont obtenu des concessions politiques de la part de leur régime autoritaire, comme le récent assouplissement par la Chine des restrictions sur le Covid-19 à la suite de protestations publiques massives. Mais de quoi les mouvements de protestation ont-ils besoin pour renverser les régimes autoritaires? Nous avons demandé à nos experts. Une scission de l'élite au sommet pourrait affaiblir Poutine, disent-ils. Graeme Robertson, politologue de l'Université de Caroline du Nord.
S'ils pensent avoir un avenir après le départ du patron, alors peut-être qu'ils décideront à un moment de chercher à s'allier avec les manifestants potentiels dans la rue. Ils feront comprendre qu'ils ne s'opposeront pas à eux et peut-être que cela encouragera plus de gens à descendre dans la rue.
Les experts considèrent les grandes grèves à travers l'Iran comme positives, mais notent que les membres du secteur de la sécurité du régime ne sont pas rangés du côté des manifestants. Écoutons encore Natasha Hall.
Et enfin, il doit y avoir une sorte de leader dans cette révolution, une sorte de facteur d'unité pour ce qui se passerait après la chute de ce régime, et aussi pour donner aux éléments du régime une porte de sortie.
Nos experts affirment que les manifestants auront plus de chances de réussir s'ils peuvent profiter d'une crise économique dans un pays, changer leur tactique et s'y retrancher, potentiellement pendant des années. Et ils ajoutent que les manifestants doivent être non violents et meilleurs en technologie que les régimes qui les traquent. Michael Miller enseigne les sciences politiques à l'université George Washington.
Il y a beaucoup, beaucoup plus de personnes dans un pays et au niveau international qui sont prêtes à soutenir un mouvement non violent par rapport à un mouvement violent.
Même sans faire tomber les régimes, ce à quoi nos experts ne s'attendent pas, les mouvements de protestation donnent de l'espoir.
Je pense que la raison de l'espoir réside précisément dans le message qui a été livré, que ces régimes ne bénéficient pas d'un soutien public large, sûr et total.
Selon les experts, plus le soutien de l'opinion publique s'érode, plus la légitimité d'un régime s'effrite.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Malgré ses maigres ressources, le cirque de Diedawa en Éthiopie enseigne aux jeunes la discipline et le travail à travers la gymnastique. Il arrive à se distinguer lors de prestigieux festivals et représente une véritable bouée de sauvetage pour les jeunes. Les détails avec Dili Diko.
Bienvenue au cirque de Diedawa, un cirque éthiopien récompensé dans des festivals internationaux en Chine, en Russie et en France. L'objectif du Diedawa Circus est d'inculquer aux jeunes discipline et travail. Le plus jeune des artistes a 5 ans et les plus âgés ont la vingtaine. Andale Aile, directeur artistique et cofondateur du cirque créé en 1997.
Nous aidons les jeunes à ne pas passer leur temps à consommer des substances addictives. Comme vous avez pu le constater, la plupart des gens par ici mâchent du hat, une plante narcotique, et se droguent, et nous leur avons appris la discipline avec la gymnastique.
De jeunes contorsionnistes s'entraînent, un jongleur cherche à se perfectionner, un enfant retente son saut périlleux et des cerceaux tournoient entre les mains du duo dont fait partie Nardos Awilito. Aujourd'hui âgée de 18 ans, elle raconte avoir commencé le cirque à 7 ans.
Premièrement, le cirque nous aide à avoir une bonne attitude. Et deuxièmement, il nous permet de mieux travailler à l'école. D'une manière générale, il nous aide dans tous les domaines de notre vie.
La jeune femme ajoute qu'au cirque de Diedawa, les gens s'apprécient et prennent soin les uns des autres.
Du haut de ses 24 ans, dont 16 d'ancienneté, Abdoul Defar Rameto, acrobate main à main, est ici l'un des doyens de cette activité.
La discipline est la chose la plus importante. Vous pouvez être très performant, mais sans discipline, ce n'est rien. La deuxième chose est le travail acharné. Il faut s'entraîner au moins pendant 3 ans pour maîtriser une performance.
Gratuit, le cirque n'a pas de peine à recruter. Le nombre d'enfants qui veulent s'entraîner est au-delà de nos capacités, explique Andale Aile.
Notre problème principal est que nous avons besoin de plus de matériaux provenant de l'étranger et qui sont chers. Nous n'avons pas les moyens de les acheter.
Le local est fourni par les autorités, mais la troupe de Dire Dawa a besoin de beaucoup plus d'aide afin de sortir les enfants de la rue et partager avec eux la passion du cirque.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Réunis en sommet à Mexico ce mardi, les dirigeants des États-Unis, du Mexique et du Canada disent travailler ensemble sur l'immigration clandestine, le trafic de drogue, les accords commerciaux face à la concurrence chinoise et affichent l'unité contre l'invasion de l'Ukraine. Anita Powell, correspondante de VOA à la Maison-Blanche, a fait le reportage, le récit avec Firmin Cuellar.
Amistad, bonhomie, amitié. En espagnol, en français et en anglais, les dirigeants du Mexique, du Canada et des États-Unis ont affiché leur unité lors de leur rencontre de mardi à Mexico. Le président américain Joe Biden.
We're true partners.
Nous sommes de véritables partenaires tous les trois, travaillant ensemble avec un respect mutuel et une véritable sympathie l'un pour l'autre, afin de faire progresser un avenir plus sûr et plus prospère pour tous nos peuples.
Des questions difficiles sont sur la table. La migration clandestine, le changement climatique et les différents commerciaux sont au premier plan, comme l'a souligné le président mexicain qui a ouvertement mis au défi M. Biden de développer la coopération économique. Andrés Manuel López Obrador, président mexicain.
C'est le moment pour nous de déterminer d'en finir avec cet abandon, ce dédain et cet oubli de l'Amérique latine et des Caraïbes qui s'opposent à la politique de bon voisinage du géant de la liberté Franklin Delano Roosevelt, et à commencer par vous.
La réplique de Biden.
Les États-Unis fournissent plus d'aide étrangère que tous les autres pays du monde, pas seulement dans l'hémisphère, mais dans le monde entier. Notre responsabilité ne s'arrête pas à l'hémisphère occidental. Elle s'étend à l'Europe, à l'Asie, au Moyen-Orient et à l'Afrique.
Mardi, les États-Unis ont annoncé des plans de collaboration sur les questions de chaînes d'approvisionnement et de développement des semi-conducteurs et une collaboration accrue en matière d'énergie propre. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau.
Put it simply, we are and always will be.
Pour dire les choses simplement, nous sommes et nous serons toujours plus forts ensemble. Le monde d'aujourd'hui fait face à beaucoup d'incertitudes avec la montée de leaders autoritaires qui causent l'instabilité mondiale et le coût élevé de la vie et qui met le stress sur les familles. Il est important que nous nous réunissions pour examiner les moyens de rendre nos économies plus résilientes.
La migration clandestine est une question épineuse. Biden a effectué dimanche sa première visite présidentielle au point d'entrée le plus fréquenté des États-Unis, à El Paso, au Texas. Les trois dirigeants réunis à Mexico ont réitéré leur engagement en faveur d'une migration sûre, ordonnée et humaine par l'expansion des voies de migration légales. Ils ont également convenu que les trafics illégaux d'armes, de drogue et d'êtres humains constituent une menace commune et se sont engagés à travailler ensemble pour relever ce grand défi. Ce sommet fera-t-il bouger les choses? Seul le temps le dira.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans le Washington Forum cette semaine, le débat sur l'immigration aux États-Unis. Le président Joe Biden s'est rendu à la frontière sud par où des dizaines de milliers de migrants sont entrés ces derniers mois. Il s'est ensuite rendu au Mexique où le sujet est également abordé. Le président américain promet de réparer avec humanité un système d'immigration cassé, mais son projet de restriction du droit d'asile est critiqué par des associations de défense des droits humains. Comment expliquer cet afflux de migrants à la frontière avec le Mexique et quelles solutions face à la crise de l'immigration? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos